Chapitre 5. Quelque chose d'étrange. Sur la toile de tente, le vacarme de la pluie qui durait depuis le début de la nuit presque sans interruption perdit en intensité, alors que Fail, les yeux humblement baissés, approchait du fauteuil de Savannah. Sculpté et doré à outrance, il s'agissait plutôt d'un trône placé au centre des tapis aux couleurs vives qui se chevauchaient sur le sol. Le printemps était arrivé par surprise. Cela dit, avec tous les braseros éteints, l'air restait mordant. En s'inclinant bien bas, Fail présenta son plateau en argent torsadé. Sans accorder un regard à la Gaïshine, Savannah prit le gobelet de vin et but une gorgée. Malgré le désintérêt de Layel, Fail fit une autre révérence, puis elle alla reposer le plateau sur le coffre de bois renforcé de cuivre où attendaient une carafe à haut col et trois autres gobelets. Enfin, elle retourna aux côtés des 11 autres Gaïshine, debout sous la tente en toile rouge éclairée par des lampes à déflecteurs. Pour Savannah, pas de modèle à Yel bas et exigu. En matière de confort, elle ne se refusait rien. Souvent, il était difficile de la considérer comme une Yel. Ce matin, par exemple, elle savourait sa paresse dans une robe de chambre rouge mal fermée, qui dévoilait une bonne moitié de son opulente poitrine. Sous une telle avalanche de colliers de perles, d'opales et de rubis, que la pudeur en restait plus ou moins sauve. En principe, les Aïels ne portaient pas de bagues. Se fichant des coutumes, Savannah en arborait au moins une à chaque doigt, du genre chevalière plutôt qu'anneau. L'épais bandeau d'or et de pierreries qui tenait en place son foulard de soie bleue, lui-même retenant sa luxuriante crinière blonde, faisait irrésistiblement penser à un diadème, voire à une couronne. Bref, on n'aurait rien trouvé d'Aïel chez cette personne. Fail et ses compagnons, 6 femmes et 5 hommes, avaient été tirés du sommeil en pleine nuit pour former un cercle autour du lit de Savannah, 2 matelas de plumes posés l'un sur l'autre, et se tenir prêts à tout, si leur maîtresse se réveillait et désirait quelque chose. Au monde, existait-il une reine ou un roi veillé par tant de domestiques? Fail lutta pour ne pas bâiller. Avec Savannah, tous les manquements provoquaient des punitions, et bâiller devait sûrement faire partie du lot. Les Gaïshine devaient être dociles et désireux de plaire. En d'autres termes, on les incitait à pousser l'obséquiosité jusqu'à la reptation. Pourtant fiers et prompts à prendre la mouche, Bane et Shiad trouvaient l'exercice facile. Un mystère pour Fail. Près d'un mois après avoir été attaché nu dans une position qui martyrisait ses articulations, Fail avait subi 9 fois le fouet pour des offenses vénielles que Savannah considérait comme des crimes majeurs. Ses dernières zébrures n'étant pas encore guéries, l'épouse de Perrin n'avait aucune envie de remettre ça pour une faute d'inattention. Avec un peu de chance, après cette inoubliable nuit passée à mourir de froid dehors, Savannah la considérait comme dressée. Sans Rolan et son brasero, Fail ne s'en serait jamais tirée vivante. Cela dit, elle espérait de toute son âme n'être pas le moins du monde dressée. Mais à force de faire semblant, il arrivait qu'on devienne pour de bon le personnage qu'on jouait. Après moins de 2 mois de captivité, Fail n'était plus capable de dire depuis quand elle croupissait dans la servilité et la bassesse. Parfois, elle aurait juré porter la tenue blanche depuis largement plus d'un an. Pire encore, il lui arrivait trop souvent de ne plus remarquer le collier qu'elle portait autour du cou et la large ceinture qui ceignait sa taille. Cette perte de contact avec la réalité l'inquiétait plus que tout le reste. L'espoir, il ne lui restait plus que ça pour ne pas sombrer. Tôt ou tard, elle s'évaderait. Ça ne pouvait pas finir autrement. Oui, elle serait libre longtemps avant que Perrin déboule avec l'intention de la sauver. Pourquoi tardait-il tant, celui-là? Les Shaido campant à Malden depuis un bout de temps, les retrouver aurait dû être un jeu d'enfant. Pourtant, son mari ne l'avait pas abandonnée. Elle en aurait mis sa main au feu. Avant qu'il se fasse tuer en tentant de la libérer, elle devait se débrouiller pour filer. Sinon, un jour, elle aurait dépassé le stade de la soumission feinte pour entrer dans celui de la servilité assumée.
Tevara,
demanda Savannah.
Combien de temps encore vas-tu punir Galina Sedai?
Assise sur un coussin à pompons bleus, juste en face de Savannah, la matriarche redressa le dos et pointa le menton.
Hier soir, l'eau de mon bain était trop chaude. Un manquement de plus. Galina est si amochée que je la fais frapper sur la plante des pieds. C'est douloureux, mais aussi très efficace quand une prisonnière doit rester en relativement bon état.
Depuis que Tevara avait fait entrer Galina sous la tente, Fail s'appliquait à ne pas la regarder. Mais à la mention du nom de Aes Sedai, ses yeux s'étaient rivés sur elle de leur propre chef. Un peu sur le côté, Galina était agenouillée à équidistance des deux aïeules. Trempée jusqu'aux os par une averse nocturne, pendant qu'elle se dirigeait vers la grande tente, la pauvre n'avait plus de visage, mais une collection de bleus et de contusions. À part sa ceinture et son collier d'or, elle ne portait rien, et les fichus bijoux la faisaient paraître plus nue encore. De ses cheveux et de ses sourcils, il ne restait plus qu'un duvet. Ses autres poils, du cou à la pointe des pieds, avaient été brûlés par le pouvoir de l'unique. Et d'après ce qu'on racontait, pour sa première correction, on l'avait suspendu par les chevilles, avant de l'utiliser comme un sac de frappe. Pendant des jours, les Geishai n'avaient parlé que de ça. En Galina, seuls les initiés capables de reconnaître un visage sans âge dévasté par les coups étaient encore à même de voir une Aes Sedai. Et parmi ces femmes, à l'instar de Fail au début, beaucoup se demandaient ce qu'une sœur fichait dans une tenue de Geishai. D'accord, le visage collait et elle portait la bague, mais pourquoi une Aes Sedai se serait-elle laissée traiter ainsi par Tevara? Fail se posait souvent cette question, sans parvenir à y répondre. Les Aes Sedai étaient connus pour avoir des motivations qu'elles seules comprenaient, mais dans le cas présent, ce semblant d'explication ne tenait pas la route. Quelle que soit la clé de l'énigme, les yeux écarquillés de Galina semblaient ne pas pouvoir se détourner de Tevara. Folle d'angoisse, elle respirait comme un soufflet de forge. Sa peur reposait sur de solides motifs. Quiconque passait près de la tente de Tevara, presque à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, risquait fort d'entendre Galina implorer la clémence de sa tourmenteuse. 5 jours durant, Fail avait vu la Aes Sedai arpenter le camp pour accomplir une improbable mission. En haillons et hirsute, elle courait comme une folle, la panique voilant son regard. Quotidiennement, Tevara ajoutait des zébrures sur les épaules, le dos, les reins et l'arrière des genoux de sa victime. Dès que des cicatrices semblaient vouloir guérir, elle les visait pour les rouvrir. Si impensable que ça parut, Fail avait entendu des Shaido s'indigner du traitement que subissait Galina. Mais bien entendu, personne ne se serait mêlé des affaires d'une matriarche. Presque aussi grande que bien des hommes de son peuple, Tevara tira sur son fichu dans un cliquettement de bijoux en or et en ivoire, puis regarda Galina à la manière d'un aigle qui vient de repérer une souris. À côté de ceux de Sevana, les bijoux de la matriarche auraient pu être qualifiés de sobres, tout comme son chemisier blanc en algode et sa jupe de laine sombre. Pourtant, des deux, c'était Tevara que Fail redoutait le plus. Si Sevana la faisait punir pour des broutilles, Tevara, elle, aurait pu la réduire en bouillie, histoire de se défouler. Si la tentative d'évasion échouait, elle ne s'en priverait sûrement pas.
« Tant que son visage restera tuméfié, » continua Tevara, « ne serait-ce qu'un peu, son âme aussi sera amochée et craintive. Son torse, je ne l'ai pas encore travaillé de face, histoire de pouvoir la châtier pour ses futures transgressions. »
Des larmes ruisselant sur ses joues, Galina ne put s'empêcher de trembler. Fail détourna le regard d'un spectacle révoltant. Si elle parvenait à sortir l'artefact du fief de Sevana, Galina pourrait-elle encore l'aider à s'évader? Car elle semblait bel et bien brisée. Un raisonnement cynique, peut-être, mais pour survivre, une prisonnière devait avant tout être lucide. Pour échapper à son calvaire, Galina irait-elle jusqu'à dénoncer Fail? Naguère, elle l'en avait menacé, si elle ne parvenait pas à s'approprier le bâton. Savoir que Fail était la femme de Perrin Aibara intéresserait surtout Sevana, mais à son stade de désespoir, Galina était capable de faire n'importe quoi. Fail implora la lumière de donner à cette femme la force de résister. Bien entendu, au cas où Galina ne tiendrait pas parole, emmener Fail et ses amis avec elle quand elle partirait, l'épouse de Perrin avait un plan de secours. Mais si tout se passait comme prévu, ce serait tellement plus sûr et moins dangereux. Pourquoi Perrin n'était-il pas déjà là? Non, pas de pensée fallacieuse. Envers et contre tout, il fallait rester concentré.
« Dans cet état, »
fit Sevana, les yeux baissés sur son vin,
« elle n'est pas du tout impressionnante. Même sa bague ne lui donnerait pas l'air d'être une sœur. »
Pour une raison qui dépassait Fail, Sevana tenait à ce que tout le monde sache que Galina était une sœur. Elle allait même jusqu'à lui donner parfois son titre honorifique.
« Pourquoi es-tu arrivé si tôt, Tevara? Tu vois bien que je n'ai pas encore mangé. Veux-tu un peu de vin ?»« Non, de l'eau, »
répondit Tevara, catégorique.
« Quant à l'heure précoce, le soleil est presque au-dessus de l'horizon. Moi, j'ai pris le petit déjeuner avant qu'il se lève. Tu deviens aussi paresseuse qu'une femme des terres mouillées, Sevana. »
La Domani Lusara, Une Gaïshain à la lourde poitrine s'empara de la carafe d'eau pour remplir à la hâte un gobelet. À l'évidence amusée par la tempérance des matriarches, Sévana prenait toujours soin d'avoir de l'eau fraîche à leur proposer. Un autre comportement aurait été une insulte que nul ne se serait permis, pas même elle. Dans sa vie d'avant, la Domanie au teint cuivré était une négociante. L'âge mûr depuis longtemps dépassé, elle n'avait pas été sauvée par les cheveux blancs qui commençaient à coloniser sa longue crinière noire. Pour son malheur, Lusara était incroyablement belle, et Sévana collectionnait les Gaïshain riches, puissants et beaux, en se les appropriant sans vergogne, lorsqu'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Considérant l'abondance de Gaïshain, personne ne s'en plaignait vraiment. Après une révérence gracieuse, Lusara présenta son plateau à Tevara, un parangon de servilité. Mais en revenant à sa place, elle sourit à Feil, un sourire conspirateur pour ne rien arranger. Feil ravala un soupir. Sa dernière séance de douleur, elle la devait à un soupir lâché au mauvais moment. Lusara était une des femmes qui lui avait juré fidélité ces deux dernières semaines. Après Aravin, Feil s'était efforcé de choisir plus prudemment ses partisanes et ses partisans. Mais rejeter un candidat, c'était courir le risque de fabriquer un traître. Du coup, elle avait beaucoup trop de fidèles, dont un grand nombre ne lui paraissait pas fiables. Lusara, en revanche, semblait être digne de confiance. En tout cas, pas du genre à trahir volontairement. Hélas, elle prenait le plan d'évasion pour un jeu qui ne coûterait rien en cas de défaite. Dans sa carrière de négociante, elle avait la même philosophie, gagnant et perdant des fortunes sans y penser. Mais Feil, si elle échouait, n'aurait pas de seconde chance. Même chose pour Aliandre, Megdine et Lusara elle-même. Parmi les Gaïshain de Sévana, ceux qui tentaient de fuir étaient ensuite enchaînés jour et nuit, sauf quand ils servaient leur maîtresse ou s'acquittaient d'une corvée. Tevara but une gorgée d'eau, puis posa le gobelet sur le tapis, et riva sur Sévana un regard dur comme l'acier.
« Les matriarches pensent qu'il est grand temps de partir d'ici, en direction du nord-est. Dans les montagnes, nous trouverons des vallées faciles à défendre. » Même avec les Gaïshain qui nous ralentissent, nous y serons en 2 semaines. Ici, nous sommes vulnérables de tous les côtés, et pour trouver des vivres, nous devons aller de plus en plus loin. »
Sévana soutint le regard de Tevara sans ciller une seule fois. Un exploit dont Feil doutait d'être capable. Quand les autres matriarches se rassemblaient sans elle, ça agaçait la dirigeante provisoire du clan Jumaï. En principe, elle se vengeait sur ses Gaïshain, mais là, elle se contenta de sourire et de boire une gorgée de vin.
« Ici ?»
fit-elle, sur le ton de quelqu'un qui s'adresse à un déficient mental.
« Le sol est fertile, et nous pouvons ajouter aux nôtres les graines de Malden. Dans les montagnes, qui peut dire comment sera la terre ? D'autre part, nos maraudeurs nous ramènent des vaches, des moutons et des chèvres. Ici, les bons pâturages abondent. Combien y en a-t-il dans les montagnes, Tevara ? Ici, nous avons plus d'eau qu'aucun clan n'en a jamais eu. Sais-tu ce qu'il en serait dans tes montagnes? Quant aux considérations défensives, quelle est leur pertinence? Ici, qui nous attaquerait? Les pleutres des terres mouillées filent dès qu'ils voient la pointe d'une de nos lances.
Tous ne filent pas,
rappela Tevara.
Certains savent même danser avec les lances, et ils s'en sortent très bien. Imagine que Randaltor nous fasse assiéger par une des autres tribus qui s'oppose à nous. Nous n'en aurions pas conscience avant qu'il soit trop tard.
Incongrûment, Tevara sourit, mais avec de la glace dans les yeux.
On murmure que ton plan est de te faire capturer pour devenir une des Gaïshain d'Altor. Tout ça pour le contraindre à t'épouser. Une idée désopilante, non?
L'épouse de Perrine ne put s'empêcher de tressaillir. Le plan farfelu de Sévana visant à épouser Rand, pour croire en une chose pareille il fallait être dérangé, affaiblissait la position de Feil face à Galina. Si Layel ignorait que Perrine était liée au dragon réincarné, Galina était en mesure de le lui apprendre. Dans le même ordre d'idées, si Feil ne parvenait pas à mettre la main sur le fichu bâton, Galina finirait tôt ou tard par la dénoncer. À ce stade, Sévana ne pouvait pas risquer de perdre un atout précieux, et pour défendre son bien, elle était prête à tout. Si Feil se faisait prendre lors d'une tentative d'évasion, elle finirait avec des fers aux pieds. Sévana ne trouva rien de désopilant dans la tirade de Tevara.
Qui murmure ça? Qui?
Tevara reprit son gobelet et but une nouvelle gorgée d'eau. Comprenant qu'elle n'obtiendrait aucune réponse, Sévana se cala au dossier de son trône et tira sur les plis de sa robe de chambre. Du feu crépitant toujours dans ses yeux d'émeraude, elle parla d'un ton plus dur que la pierre.
« J'épouserai Randall Thor, Tevara. Je le tenais presque. Mais les autres matriarches et toi, vous m'avez trahi. J'épouserai cet homme, j'unifierai les tribus, et nous soumettrons toutes les terres mouillées. »
Au-dessus du bord de son gobelet, Tevara eut un rictus.
« Le Karakarn, Sevana, c'était Kuladin. Je n'ai pas débusqué les matriarches qui l'ont autorisé à aller à Ruidéan, mais ça ne tardera plus. Randall Thor est la créature des Aes Sedai. Ce sont elles qui lui ont soufflé son discours d'Al-Kaïrdal. Et ce fut un moment terrible pour les Aghels. Un jour noir où il révéla des secrets que peu d'entre nous sont assez forts pour supporter. Remercie le ciel que la plupart des nôtres aient cru qu'il mentait. Mais j'oubliais, tu n'es jamais allé à Ruidéan. Donc, tu as gobé les mensonges de cet homme. »
Des Gaïshain entrèrent sous la tente. Leur tenue blanche gorgée de pluie, ils attendirent d'être au sec pour cesser d'en remonter l'ourlet. Tous porteurs du collier et de la ceinture d'or, ils laissaient des traces de gadou sur leur passage. Plus tard, quand elles auraient séché, ils devraient les éliminer. Mais en termes de transgression, avoir souillé sa robe ou sa tunique blanche était beaucoup plus grave. Sevana voulait que ces Gaïshain soient impeccables dès qu'ils se présentaient devant elle. Comme on aurait pu le prévoir, les deux Aiel n'accordèrent aucune importance aux nouveaux venus. De toute façon, Sevana semblait abasourdie par les derniers propos de Tevara.
« En quoi ça t'intéresse? Qui a donné la permission à Kuladin? Bah, au fond, ça n'a aucune importance. Donc passons à autre chose. Kuladin est mort, et Randall Thor porte les marques. Qu'importe la manière dont il les a obtenues. Ce garçon, je l'épouserai, et je tirerai ses ficelles comme celles d'une marionnette. Si les Aes Sedai peuvent le contrôler, et j'en ai vu qu'ils le manipulaient comme un bébé, pourquoi en serais-je incapable? Avec un peu d'aide de ta part, j'y arriverai. Et tu m'assisteras. Tu reconnais qu'unifier les tribus est une tâche salvatrice. Et tant pis pour la façon dont on s'y prend. Tu as essayé un jour. »
Sous une phrase banale, une menace des plus explicites.
« En un clin d'œil, les Shaido deviendront la tribu la plus puissante de toutes. »
Abaissant leurs capuches, les nouveaux Gaïshain se répartirent en silence sous la tente. 9 hommes et 3 femmes, l'une d'elles étant Megdin. Depuis que Tevara l'avait trouvée sous la tente des matriarches, la captive aux cheveux dorés affichait une expression sinistre. Quoique l'Aiel lui ait fait, tout en Megdin criait qu'elle avait envie de la tuer de ses mains. Cela dit, ces derniers temps, il lui arrivait de gémir dans son sommeil. Tevara garda pour elle ce qu'elle pensait au sujet de l'unification des tribus.
« Très peu de Shaido sont pour la prolongation de notre séjour ici. Chaque matin, beaucoup de chefs de clan appuient sur le cercle rouge de leur Narbaa. Je te conseille vraiment d'écouter les matriarches. »
Narbaa? La traduction aurait pu être « boîte à gogo » ou quelque chose dans le genre. Mais qu'est-ce que c'était? Dès qu'elles en trouvaient le temps, Bane et Shiad continuaient à initier Fail à la culture Aiel, et elles n'avaient jamais mentionné cet artefact, si c'en était un. Megdin vint se placer à côté de Lusara. Appelé Dwarmanes, un Kyrienien élancé se campa près de Fail. Très jeune et très beau, il se mordait nerveusement la lèvre inférieure. S'il apprenait l'existence des serments d'allégeance, il faudrait l'éliminer. Sinon, Sevana serait prévenue dans la minute suivante.
« Nous resterons ici !»
rugit Sevana, en projetant son gobelet sur le précieux tapis.
« Je remplace le chef de tribu, et je viens de parler !»
« Tu viens de parler, oui, »
admit Tevara, très calme.
« Benduin, le chef du clan des Sels Verts, a reçu la permission d'aller à Ruidéan. Il est parti il y a 5 jours, avec 20 de ses guerriers et 4 matriarches en guise de témoins. »
Dès que chaque Gaïshain eut son remplaçant à côté de lui, tous ceux du groupe de Fail relevèrent leurs capuches et, rasant la toile de tente, se dirigèrent vers le rabat en relevant jusqu'au genou le bas de leur tenue. À force, Fail ne se souciait plus de dévoiler ainsi ses jambes.
« Il veut prendre ma place et il ne m'en a pas informé ?»«
Pas ta place, Sevana, mais celle de Kuladin. Étant sa veuve, tu parles comme une dirigeante, mais ça cessera lorsqu'un nouveau chef reviendra de Ruidéan. En fait, tu n'as jamais commandé les Shaido. »
Fail émergea sous le crachin d'un début de matinée maussade. En se refermant, le rabat l'empêcha d'entendre la réponse de Sevana. Que se passait-il entre les deux Aiel? Parfois, comme aujourd'hui, elles semblaient s'opposer. Mais à d'autres occasions, on eût dit des conspiratrices unies à contre-cœur par un secret qui les gênait toutes les deux. à moins que ce soit leur lien en soi qui les trouble. La réponse à cette question ne risquant pas d'aider Fail à s'évader, tout ça était très secondaire. Mais les énigmes, depuis toujours, excitaient l'épouse de Perrine. Six promis se tenaient devant la tente. Leur voix l'a baissée, elles avaient glissé leur lance dans le harnais de l'étui à arc accroché entre leurs omoplates. Bane et Shiad ne cachaient pas le mépris que leur inspirait Sevanna. D'abord parce qu'il était inconvenant d'avoir des promises comme garde d'honneur, quand on n'en avait pas été une. Ensuite parce qu'il était pitoyable de faire surveiller ainsi sa tente. Pourtant, il n'y avait jamais moins de 6 guerrières à ce poste, de jour comme de nuit. Bane et Shiad désapprouvaient aussi les promises qui participaient à cette mascarade. Diriger une tribu ou remplacer le chef pour un temps ne conférait pas les pouvoirs dont bénéficiaient les nobles dans d'autres cultures. En grande conversation, les promises agitaient fébrilement les mains. Les dépassants, Fail reconnut 2 ou 3 fois les gestes qui composaient le mot « Karakarn ». Hélas, impossible de savoir de quoi elles parlaient, ni même si elles évoquaient Altor ou Kouladin. S'arrêter pour écouter, si elle était capable de tout saisir, s'avérait hélas hors de question. Alors que ses compagnons s'éloignaient déjà dans les rues boueuses, les promises auraient eu très vite des soupçons. Dans ce cas, elle risquait de la rosser, voire, pire encore, de la fouetter avec les lacets de ses bottes. Des regards insolents, lui ayant plusieurs fois valu ce châtiment, chez les Shaido les promises ne rigolaient pas, Fail n'avait aucune envie de recommencer. Surtout quand ça impliquait de se déshabiller en public. Être une gaïshine de Sevanna ne protégeait de rien. Face à un larbin indiscipliné, n'importe quel Shaido avait le droit de sévir. Y compris un enfant, si on l'avait désigné pour surveiller une corvée. Ultime considération, si Fail s'attardait, sa robe blanche serait vite trempée. Très désagréable quand on avait 400 ou 500 pas à faire pour regagner sa tente. De quoi se tremper aussi, mais un peu moins, si personne ne la forçait à s'arrêter. Bâillant à s'en décrocher la mâchoire, Fail se détourna de la grande tente rouge. Pour retrouver ses couvertures et dormir 2 heures de plus, elle aurait tout donné. Dans l'après-midi, d'autres corvées l'attendraient, lesquelles elle n'aurait su le dire, car Sevanna les distribuait au hasard. Un peu d'organisation aurait facilité la vie des Gaïshine, mais justement, ce n'était pas le but recherché. Quand tout se décidait à la dernière minute, planifier quoi que ce fût, y compris une tentative d'évasion, devenait hautement compliqué. Autour du fief de Sevanna, dans les traverses boueuses, on trouvait toutes sortes de tentes. Des basses de couleur sombre, selon la coutume aïeule, mais aussi des pointues, des carrés, et une infinité d'autres modèles de taille et de couleurs différentes. Manquant de matériel, les Shaido réquisitionnaient toutes les tentes qui leur tombaient sous la main. Autour de Malden, 14 clans étaient désormais cantonnés, soit 100 000 Shaido et au moins autant de Gaïshine. Selon les rumeurs, 2 autres clans, celui de la Falaise Blanche et celui des Morailles, arriveraient bientôt. À part les enfants qui pataugeaient dans la boue avec des chiens facétieux, tous les gens que Fail croisa portaient une tenue blanche souillée de boue, éployée sous le poids de gros sacs ou d'énormes paniers. Parmi ces malheureux, les femmes ne se hâtaient pas, elles couraient carrément derrière leurs chaussures. À part dans les métiers de la forge, les Shaido travaillaient rarement, et en général pour tromper leur ennui. Avec tant de Gaïshine, trouver en permanence des corvées devenait une sorte de corvée. Du coup, Sevanna n'était plus la seule Shaido à s'asseoir dans sa baignoire avec un Gaïshine pour lui frotter le dos. Pour l'instant, les matriarches n'étaient pas tombés si bas, mais beaucoup de Shaido refusaient désormais de se baisser pour ramasser quelque chose quand un larbin pouvait le faire à leur place. Fail approchait du secteur réservé aux Gaïshine au pied des murs de Malden quand elle vit la matriarche qui courait vers elle, son fichu sombre enroulé autour de la tête pour se protéger de la pluie. Sans s'arrêter, la femme de Perrine plia vaguement un genou. Moins terrifiante que Tevara, Meira n'avait rien à parangon de bonté. Plus petite que Fail, elle détestait sa taille et pinçait toujours les lèvres quand elle devait lever la tête pour parler à quelqu'un. Selon Fail, savoir que le clan de la Falaise Blanche, le sien, serait bientôt là, aurait dû l'amadouer. Mais ça ne changeait rien du tout à ses mauvaises dispositions naturelles.
« À ce que je vois, tu traînasses !»
grogna Meira quand elle fut assez près de Fail.
« J'ai laissé Rialé écouter le rapport de tes compagnons, parce que je craignais qu'un crétin t'ait tiré de force sous sa tente. »
Elle regarda autour d'elle, à l'affût d'un ivrogne susceptible d'avoir cette intention.
« Personne ne m'a abordé, matriarche. »
dit très vite Fail. Depuis sa capture, plusieurs rustres avaient essayé. Mais Roland s'était toujours montré au bon moment. Par 2 fois, le grand Meradin avait dû se battre pour la sauver, et un agresseur y avait laissé sa peau. Fail avait redouté que l'affaire fasse du bruit, mais le combat étant loyal, les matriarches avaient voté pour un non-lieu. Et selon Rolan, le nom de Fail n'avait jamais été mentionné. Même si ça allait contre toutes les coutumes, selon Bane et Shiad, les Gaishan féminins étaient constamment en danger dans le camp. Aliandre avait d'ailleurs dû être agressée une fois, avant que Megdin et elle soient également dotées d'un Eradin protecteur. Rolan prétendait n'avoir demandé à personne de défendre les amis de Fail. À l'en croire, certains hommes désœuvrés se cherchaient simplement une occupation.
« Matriarche, je suis navré d'avoir été silente.
Ne rampe pas devant moi, je ne suis pas Tevara. Tu crois que je te frapperai simplement pour le plaisir ?»
Ces mots rassurants dits sur le ton d'un bourreau qui vous invite à poser la tête sur le billot. Meira n'était peut-être pas sadique, mais un fouet en main, elle ne ménageait pas sa peine.
« Bien, décris-moi ce qu'a fait Sevana, et répète tout ce qu'elle a dit. L'eau qui tombe du ciel est un miracle, c'est vrai, mais elle n'en mouille pas moins quand on se balade dessous. »
Obéir à Meira fut un jeu d'enfant. Sevana ne s'était pas réveillée pendant la nuit. Au matin, elle avait parlé des habits et des bijoux qu'elle porterait. Les seconds, surtout. À l'origine prévue pour des vêtements, son coffre débordait de trésors qu'une reine aurait aimé posséder. Avant même de se vêtir, Sevana avait essayé 10 combinaisons de colliers et de bagues. Devant son miroir, elle s'était admirée pendant une éternité. Un moment très embarrassant pour Fail. Le récit en était à l'arrivée de Tevara avec Galina, quand tout sembla onduler devant les yeux de Fail, y compris ses propres mains, constata-t-elle en baissant la tête. Un tour de son imagination? Non. Les yeux bleus de Meira, ronds comme des soucoupes, prouvaient qu'elle vivait la même expérience. De nouveau, tout ondula, plus fort que la première fois. Sonné, Fail se redressa et lâcha l'ourlet de sa tunique blanche. Une troisième fois, le monde ondula, toujours plus violemment, et ce qui semblait être une onde de choc traversa le corps de Fail. À cet instant, elle crut qu'elle allait exploser pour devenir une brise légère, ou se dissiper tel un banc de brouillard. Le souffle court, elle attendit la quatrième vague, celle qui la détruirait et mettrait un terme à l'existence du monde. Comprenant que ce coup de grâce ne viendrait pas, elle soupira de soulagement, ce qui expulsa tout l'air de ses poumons.
« Qu'est-il arrivé, matriarche? C'est quoi ?»
Meira toucha son propre bras gauche et parut surprise que sa main droite ne le traverse pas comme de la brume.
« Je ne sais pas, »
avoua-t-elle. Au prix d'un gros effort, elle se ressaisit.
« Fais le travailler, ma fille !»
lâcha-t-elle sèchement. Relevant l'ourlet de sa jupe, elle partit à la vitesse du vent, sans se soucier de la boue qu'elle projetait autour d'elle. Les enfants n'étaient plus en vue, mais Fay les entendait pleurer sous les tentes. Quant au chien, la queue entre les pattes, il couinait de détresse. Dans les rues, les gens se palpaient eux-mêmes ou touchaient d'autres passants pour s'assurer de leur réalité. À cet instant, entre les Shaido et leurs Gaishain, plus de différence. Fail frappa dans ses mains. Oui, bien entendu qu'elle avait toujours de la substance. L'impression de se transformer en brume n'avait été que ça, une impression. Comment aurait-il pu en être autrement? Soulevant de nouveau sa robe pour ne pas la souiller encore plus, elle reprit son chemin et ne tarda pas à courir, indifférente à la boue qu'elle projetait sur les autres ou sur elle. Si une quatrième vague déferlait, fuir ne servirait à rien, et elle le savait. Pourtant, elle battit tous les records de vitesse. Disposées le long de la haute muraille d'enceinte de Malden, les tentes des Gaishain se révélaient aussi dépareillées que dans le reste du camp. Mais ici, la plupart étaient très petites. Dans celle de Fail, prévue pour 2 personnes pas trop à cheval sur le confort, la femme de Perrine cohabitait avec Aliandre, Megdin, et une ancienne noble du Kairien nommée Deiren. Une vipère qui se gagnait les faveurs de Sevana en racontant les pires horreurs sur les autres Gaishain. Sa présence compliquait les choses, mais il n'avait rien à faire, à part la tuer. Et Fail refusait qu'on en arrive là tant qu'elle ne serait pas une véritable menace. Par des nuits glaciales, les captives en quête de chaleur dormaient serrées les unes contre les autres. Quand Fail entra, il faisait noir sous la tente. L'huile et les bougies étant rares, on n'en gaspillait pas pour les Gaishain. Seul Aliandre était là. Allongée sur le ventre, les fesses couvertes d'un cataplasme, elle récupérait. Au moins, les matriarches dispensaient leurs baumes et leurs onguents aux Shaido et à leurs esclaves. La veille, Aliandre, qui n'était coupable de rien, avait été désignée comme une des 5 Gaishain les plus négligentes avec Sevana. Pendant sa punition, elle s'était très bien comportée, contrairement à certains, par exemple Douarmanès, qui avait éclaté en sanglots avant le premier coup. Courage ou pas, Aliandre entrait dans cette sinistre sélection tous les 3 ou 4 jours. Sans doute parce que être une reine ne vous apprenait pas à en servir une autre. Cela dit, Megdine avait droit à des coups à peu près à la même fréquence. Pourtant, elle était une servante professionnelle. Pas très douée, mais quand même. Fail, quant à elle, avait été élue une seule fois. Sans faire un geste pour se couvrir, la preuve de sa déchéance morale, Aliandre se redressa sur les coudes. Au moins, elle s'était brossé les cheveux. Si elle l'oubliait un jour, ce serait la preuve qu'elle avait touché le fond.
« T'est-il arrivé quelque chose d'étrange ?»
demanda-t-elle, toujours sous le choc.
« Et comment ?»
répondit Fail, toujours figé dans l'entrée de la tente.
« J'ignore ce que c'était. Même Meira n'a pas été capable de le dire. Selon moi, ce n'était pas l'œuvre d'une matriarche. Quoi qu'il en soit, ça ne nous a pas fait de mal. »
Bien entendu que ça ne leur avait pas nui. Voyons, c'était évident.
Et ça ne change rien à nos plans.
En bâillant, Fail défit la boucle de sa large ceinture, puis la retira, et la laissa tomber sur ses couvertures. Enfin, elle tira sur sa robe blanche pour la faire passer par-dessus sa tête. Aliandre posa la tête sur le dos de ses mains et éclata en sanglots.
« Nous nous évaderons jamais !»
gémit-elle.
« Et ce soir, je serai encore châtiée. On me fera mal chaque jour jusqu'à la fin de ma vie !»
Avec un soupir, Fail laissa retomber sa robe le long de son corps et s'agenouilla pour caresser les cheveux de sa vassale. Qu'on soit en haut ou en bas de l'échelle, les responsabilités restaient écrasantes.
« J'ai les mêmes terreurs de temps en temps, »
reconnut-elle.
« Mais je refuse de les laisser me dominer. Je m'évaderai. Nous le ferons ensemble. Tu dois garder courage, Aliandre. Je connais ta bravoure. Confronté à Massema, tu n'as pas paniqué. Tu peux tenir le coup si tu t'accroches. »
Aravine passa la tête par le rabat. Boulotte et ordinaire, c'était pourtant une noble. Fail en aura mis sa tête à couper, même si sa fidèle n'évoquait jamais le sujet. Malgré la pénombre, l'épouse de Perrine vit que l'intruse rayonnait. Elle aussi portait le collier et la ceinture des Gaïshine de Sévana.
« Madame, Alvon et son fils ont quelque chose pour toi. »«
Ils devront attendre quelques minutes, »
répondit Fail. Aliandre ne pleurait plus, mais elle restait prostrée.
« Madame, pour ça, vous ne voudriez pas attendre. »
Fail en eut le souffle coupé. Était-ce ce qu'elle croyait ? Ça aurait été trop beau.
« Je peux me ressaisir, »
dit Aliandre en levant la tête pour regarder Aravine.
« Si Alvon est venu avec ce que j'espère, je serai capable de rester calme sous la torture. »
Être vu dehors sans les symboles de son appartenance valant une punition presque aussi sévère que pour une tentative d'évasion, Fail récupéra sa ceinture et sortit en trombe de la tente. Même si le crachin s'était transformé en brouillard, elle releva sa capuche, car l'air restait frais. Trapu, Alvon était bien plus petit que son fils, Terril, un jeune homme très mince. L'un comme l'autre, il portait une tunique presque blanche taillée dans de la toile de tente immaculée de boue. Fils aîné d'Alvon, Terril n'avait que 14 ans. Mais les Shaido avaient refusé de le croire, à cause de sa taille, égale à celle de bien des gaillards adultes. Fail, elle, se fiait à Alvon depuis le début. Parmi les Gaïshine, son fils et lui étaient des légendes. 3 tentatives d'évasion, et les 2 dernières fois, les Shaido avaient dû chercher plus longtemps pour les rattraper. Malgré des punitions de plus en plus féroces, ils avaient juré allégeance à Fail et travaillé à un 4e plan de fuite afin d'aller retrouver le reste de leur famille. Aucun d'eux n'avait jamais souri en présence de Fail, jusqu'à aujourd'hui, où ils montraient leurs dents d'abondance.
« Qu'avez-vous pour moi ?»
demanda Fail en bouclant à la hâte sa ceinture. À force de bondir dans sa poitrine, elle redoutait que son cœur finisse par en sortir.
« Tout le mérite en revient à Terril, madame. »
Bûcheron de son état, Alvon avait un accent à couper au couteau, comme bien des amadiciens.
Il se baladait juste comme ça, et il n'y avait personne alentour. Du coup, il est entré sous la tente de... Montre à la dame, Terril.
Maladroitement, Terril glissa une main dans sa large manche. En général, les tuniques longues y avaient des poches cousues à l'intérieur, et en tira un bâton couleur ivoire d'un peu plus d'un pied de long, et du même diamètre que son poignet. Après avoir regardé partout et constaté que personne ne les observait, Fail prit l'artefact et le glissa dans sa propre manche, également muni d'une poche. Juste assez longue pour que le bâton y tienne, mais à présent qu'elle l'avait, il n'était pas question qu'elle le perde. Lisse comme du verre, l'objet était plus froid au toucher que l'air glacial. Un angréal ou un terangréal? C'était possible, et ça aurait expliqué pourquoi Galina convoitait tellement ce bâton. Mais dans ce cas, pourquoi ne s'en est-elle pas emparée elle-même? La main dans sa manche, Fail serra très fort son trésor. Galina n'était plus une menace. À partir de cet instant, elle incarnait le salut.
Alvon, tu as conscience que Galina ne pourra peut-être pas vous emmener lorsqu'elle partira? Sa promesse concerne seulement ma personne et les femmes capturées en même temps que moi. Cela dit, j'ai juré à tous mes fidèles de trouver un moyen de les libérer. Si je peux sauver tous les Gaishine, je le ferai. Mais vous êtes prioritaire. Au nom de la lumière et sur mon espoir de salut et de résurrection, je le jure.
Fail ignorait comment honorer sa promesse, sauf à demander à son père de lui prêter une armée, mais elle comptait bien tenir parole. Le bûcheron faillit cracher sur le sol, mais il se ravisa, regarda Fail et s'empourpra.
Votre Galina n'aidera personne, madame. Elle prétend être une Aes Sedai, mais en réalité, c'est le souffre-douleur de Tevara, qui ne laissera jamais partir. Quoi qu'il en soit, je sais que vous reviendrez nous tirer de là, si nous vous aidons à fuir. Inutile de prêter serment. Vos consignes étaient de voler ce bâton, si une occasion sans risque se présentait. Et Terry a fait ce qu'il fallait. Il n'y a rien de plus à dire.
Je veux recouvrer ma liberté, dit soudain Terry. Mais si tout le monde finit par s'évader, alors nous aurons vaincu ces chiens.
L'air surpris d'avoir tant parlé, le fils d'Alvon rougit comme une pivoine. Le front plissé, son père l'approuva du chef.
Très bien dit,
s'écria Fail.
Mais j'ai juré, et je tiendrai parole. Ton père et toi.
La femme de Perrine s'interrompit. Une main posée sur son bras, Aravine regardait par-delà son épaule, et son sourire avait tourné allègre. Fail tourna la tête et vit ce qui effrayait sa compagne. Près de sa tente, Rolan l'attendait. Faisant une bonne tête de plus que Perrine, il portait son choufa enroulé autour du cou, et son voile noir pendait sur sa poitrine. Sous ses courts cheveux roux luisants d'humidité, des gouttelettes ruisselaient sur son front. Depuis quand était-il là? Très peu, sinon Aravine l'aurait repéré plus tôt. Pour un géant, il n'y avait guère de cachette dans les environs de la petite tente. Alvon et Terril se ramassèrent sur eux-mêmes, comme s'ils envisageaient d'attaquer le Meradin. Une très mauvaise idée, ça. Des souris qui s'en prennent à un chat, comme disait Perrine, ça ne mène jamais loin.
Retourne à ton travail, Alvon,
dit Fail.
Toi aussi, Aravin.
Alvon et Aravin eurent la subtilité de ne pas saluer Fail avant de s'éloigner, non sans jeter des regards inquiets à Rolan. Terril, lui, manqua porter une main à son front, mais il se reprit, et de plus en plus rouge, emboîta le pas à son père. Sans hâte, Rolan vint se camper devant Fail. Très bizarrement, il tenait dans son énorme poing un petit bouquet de fleurs sauvages jaunes et bleues. Fail pensa au bâton qu'elle cachait dans sa manche. Où le mettrait-elle en sécurité? Quand elle découvrirait le vol, Tevara ferait fouiller le camp deux fois plutôt qu'une.
« Tu dois être prudente, Fail Bachéré, »
dit Rolan avec un sourire. Aliandre le qualifiait de « presque beau garçon », mais selon Fail, elle se trompait. Ses yeux bleus et son sourire faisaient oublier d'éventuelles imperfections.
« Ce que tu mijotes est dangereux, et je ne serai peut-être plus là très longtemps pour te protéger. »«
Dangereux ?»
répéta Fail avec un frisson glacé.
« Que veux-tu dire? Et où vas-tu aller ?»
À l'idée de perdre son protecteur, elle sentit son estomac se retourner. Peu de femmes des terres mouillées avaient échappé aux assiduités des Shaido.
Sans lui, certains d'entre nous songent à retourner dans le désert.
Le sourire s'effaça.
« Nous ne pouvons pas suivre un faux Karakarn, originaire des terres mouillées qui plus est. » Mais on nous autorisera peut-être à vivre en paix sur notre terre natale. Nous y pensons vraiment. Le mal du pays est puissant, et les Shaido nous dégoûtent.
Dès que Rolan la lâcherait, Fail devrait trouver une bonne cachette, coûte que coûte.
Et que fais-je donc de dangereux?
Une question posée sur un ton léger qui n'aurait trompé personne. Sans Rolan, qu'allait-elle devenir?
Fail Bachéré. Même quand ils n'ont pas bu, ces Shaido sont aveugles.
Abaissant la capuche de Fail, Rolan piqua dans ses cheveux une très jolie fleur des bois.
Les Meradin, eux, ouvrent toujours les yeux.
Une autre fleur vint faire le pendant de la première sur la tempe opposée de Fail.
Ces derniers temps, tu t'es fait beaucoup d'amis, et tu prévois de t'enfuir avec eux. Un plan courageux, mais très risqué.
Tu vas prévenir les matriarches? Sivana, peut-être.
Fail s'étonna de son équanimité, alors qu'elle tremblait comme une feuille à l'intérieur de son corps.
« Pourquoi le ferais-je ? »
demanda Rolan en ajoutant une troisième fleur à son œuvre.
« Joradin compte emmener avec lui la Syl Aldorwyn, et tant pis si elle est une tueuse d'arbres. Il pense pouvoir la convaincre de tresser pour lui une couronne de mariage, afin de la déposer à ses pieds.
La Syl s'était procuré un protecteur en se glissant sous les couvertures du Meradin qui l'avait capturé. Arella avait fait de même avec une des promises qui s'était emparée d'elle. Cela dit, Fael doutait que Djoradin obtiendrait ce qu'il désirait, car ces deux femmes comptaient parmi les plus déterminées à s'évader.
En y réfléchissant, je pourrais bien te prendre avec moi si ça se fait.
Les cheveux de plus en plus gorgés d'eau, Fael leva les yeux vers son protecteur.
Pour aller dans ton désert? J'aime mon mari, je te l'ai dit, et c'est la vérité.
Je sais, fit Rolan, sans cesser d'ajouter des fleurs. Mais pour l'instant, tu portes encore du blanc. Et ce qui arrive quand on est ainsi vêtu n'a jamais existé ensuite. Ton mari ne pourra rien te reprocher. En outre, si nous partons, je te libérerai dès que nous passerons près d'une ville des terres mouillées. Je n'aurais jamais dû faire de toi une Gaishine. Avec le collier et la ceinture, tu auras assez d'or pour rejoindre ton époux en toute sécurité.
Fael en resta bouche bée. Puis, à sa grande surprise, son poing s'abattit sur le torse du géant. Les Gaishine n'avaient jamais le droit de se montrer violents, mais Rolan se contenta de sourire.
« Espèce de... »
s'écria Fael. Elle frappa de nouveau.
« Je n'arrive pas à trouver un mot assez ordurier. Tu m'as fait croire que tu m'abandonnerais au milieu des Shaido, alors que tu as de tout temps prévu de m'aider à fuir. »
Nonchalamment, Rolan bloqua le poignet de Fael dans un de ses battoirs.
« Si nous partons, Fael Bachéré. »
Il éclata de rire.
« Rien n'est décidé. De toute façon... un homme ne peut pas laisser penser à une femme qu'il est trop passionné. »
Fael se surprit une nouvelle fois elle-même, ce coup-ci en éclatant en même temps de rire et en sanglots, si violemment qu'elle dut s'appuyer à Rolan pour ne pas tomber. Ce maudit sens de l'humour des Aiel.
« Tu es très belle avec des fleurs dans les cheveux, Fael Bachéré, » murmura Rolan en continuant son œuvre. « Même remarque quand tu n'en as pas. Et pour le moment, tu portes encore du blanc. »
Lumière. Fael avait enfin le bâton, glacial contre son bras, mais elle ne pourrait pas le remettre à Galina tant que Tevara ne la laisserait pas de nouveau aller et venir librement. Et si ça arrivait, rien ne garantissait que Aes Sedai, désespérée, ne finirait pas par la trahir. Rolan lui offrait la liberté, mais à condition que les Meradin décident de partir. Cela dit, il continuerait à tenter de l'entraîner sous ses couvertures tant qu'elle porterait du blanc. Et si les Meradin choisissaient de rester, l'un d'eux la dénoncerait-il au matriarche? Si elle avait bien compris Rolan, tous étaient au courant de ses plans. L'espoir et le danger intimement entrelacés. Quel nid de serpent! Fael ne s'était pas trompé sur la réaction de Tevara. Juste avant midi, tous les Gaishine furent rassemblés hors des tentes et reçurent l'ordre de se déshabiller. Défendant son intimité avec ses mains, Fael se réfugia au milieu d'autres femmes porteuses du collier et de la ceinture de Sevana, qu'on leur avait fait remettre aussitôt la fouille terminée, pendant que des Shaido saccageaient les tentes, jetant tout ce qu'ils découvraient dans la gadoue. Fael pensa à la cachette qu'elle avait trouvée en ville, puis elle pria pour qu'elle soit bonne. L'espoir et le danger, et pas moyen de les séparer.